La révolte, deuxième chapitre, l'enlisement. Christophe en était là de ses expériences pour réformer l'art allemand quand vint à passer dans la ville une troupe de comédiens français. Il serait plus juste de dire un troupeau, car, suivant l'habitude, c'était un ramassis de pauvres diables, pêchés on ne savait où, et de jeunes acteurs inconnus, trop heureux de se laisser exploiter, pourvu qu'on les fît jouer. Tous ensemble étaient attelés au chariot d'une comédienne illustre et antique. Elle faisait une tournée en Allemagne, et de passage dans la petite capitale, y venait donner trois représentations. À la revue de Waldhaus, on en faisait grand bruit. Mannheim et ses amis étaient au courant de la vie littéraire et mondaine de Paris, où ils prétendaient l'être. Ils s'en répétaient les potins, cueillis dans les journaux des boulevards, et plus ou moins bien compris. Ils représentaient l'esprit français en Allemagne. C'était enlevé à Christophe le désir de le connaître davantage. Mannheim l'assommait avec ses éloges de Paris. Il y était allé plusieurs fois. Il avait là une partie de sa famille. Il avait de la famille dans tous les pays d'Europe. Et partout, elle avait pris la nationalité et les dignités du pays. Cette tribu d'Abraham comptait un baronnet anglais, un sénateur de Belgique, un ministre français, un député au Reichstag et un comte du pape. Et tous, bien qu'unis et respectueux de la souche commune dont ils étaient sortis, étaient sincèrement anglais, belges, français, allemands ou papalins. Car leur orgueil ne doutait point que le pays qu'ils avaient adopté ne fût le premier de tous. Mannheim était le seul, par paradoxe, qui s'amusa à préférer tous les pays dont il n'était point. Il parlait donc souvent de Paris avec enthousiasme. Mais, pour faire l'éloge des Parisiens, il les représentait comme des espèces de toqués, paillards et braillards, qui passaient leur temps à faire la noce et des révolutions, sans jamais se prendre au sérieux. Aussi Christophe était-il peu attiré par la byzantine et décadente république d'Outre-Vauche. De bonne foi, il imaginait un peu Paris, comme le représentait une gravure naïve, en tête d'un livre récemment publié dans une collection d'art allemande. Au premier plan, le diable de Notre-Dame, accroupi au-dessus des toits de la ville avec cette légende « Insatiable vampire, l'éternelle luxure, sur la grande cité convoite sa pâture ». En bon allemand, il avait le mépris des Welches débauchés et de leur littérature, dont il ne connaissait guère que quelques bouffonneries et criardes, L'Aiglon, Madame Sans-Gêne et des chansons de café-concert. Le snobisme de la petite ville, où les gens le plus notoirement incapables de s'intéresser à l'art s'empressèrent bruyamment de s'inscrire au bureau de location, le jeta dans une affectation d'indifférence dédaigneuse pour la grande cabotine. Il protesta qu'il ne ferait pas un pas pour aller l'entendre. Il lui était d'autant plus facile de tenir sa promesse que les places étaient à un prix excessif, qu'il n'avait pas les moyens de payer. Le répertoire que la troupe française transportait en Allemagne comprenait deux ou trois pièces classiques, mais il était composé en majeure partie de ces niaiseries qui sont par excellence l'article parisien pour l'exportation. Car rien n'est plus international que la médiocrité. Christophe connaissait la Tosca de Sardou, qui devait être le premier spectacle de la comédienne en tournée. Il l'avait entendue en traduction, parée des grâces légères que peut donner une troupe du petit théâtre rhénan à une œuvre française. Et il se disait bien aise, avec un rire goguenard, en voyant ses amis partir pour le théâtre, de n'être pas forcé d'aller la réentendre. Il n'en suivit pas moins, le lendemain, d'une oreille attentive, des récits enthousiastes qu'ils firent de la soirée. Il enrageait de s'être enlevé jusqu'au droit de contredire, en ayant refusé de voir ce dont tout le monde parlait. Le second spectacle, annoncé, devait être une traduction française d'Hamlet. Christophe n'avait jamais négligé une occasion de voir une pièce de Shakespeare. Shakespeare était pour lui, au même titre que Beethoven, une source inépuisable de vie. Hamlet lui avait été particulièrement cher dans la période de troubles et de doutes tumultueux qu'il venait de traverser. Malgré la crainte de se revoir dans ce miroir magique, il était fasciné, et il tournait autour des affiches du théâtre sans s'avouer qu'il brûlait d'envie d'aller prendre une place. Mais il était si entêté qu'après ce qu'il avait dit à ses amis, il n'en voulait pas démordre. Et il fut resté chez lui ce soir-là, comme le précédent, si au moment où il rentrait, le hasard ne l'avait mis en présence de Mannheim. Mannheim l'attrapa par le bras et lui raconta d'un air furieux, mais sans cesser de gouailler, qu'une vieille bête de parente, une sœur de son père, venait de tomber inopinément chez eux avec toute sa smala, et qu'ils étaient forcés de rester à la maison pour les recevoir. Il avait essayé de s'esquiver, mais son père n'entendait pas raillerie sur les questions d'étiquette familiale et d'égards que l'on devait aux ancêtres. Et comme il devait ménager son père, en ce moment, à cause d'une carotte qu'il se proposait de lui tirer, il avait fallu céder et renoncer à la représentation. « Vous aviez vos billets ? » demanda Christophe. « Parbleu, une loge excellente. Et pour comble, il faut que je l'aille porter, et j'y vais de ce pas, à ce crétin de Grunebaum, l'associé de papa, pour qu'il s'y pavane avec la femme Grunebaum et leur dinde fille. C'est gai. Je cherche au moins quelque chose à leur dire de très désagréable. Mais cela leur est bien égal, pourvu que je leur apporte les billets, quoiqu'ils aimeraient encore mieux que ces billets fussent de banque. » Il s'arrêta brusquement, la bouche ouverte, regardant Christophe. « Oh, mais voilà, voilà ce qu'il me faut !» Il gloussa. « Christophe, tu vas au théâtre ?»« Non. »« Si fait, tu vas au théâtre. C'est un service que je te demande. Tu ne peux pas refuser. » Christophe ne comprenait pas. « Mais je n'ai pas de place. » « En voilà !» fit Mannheim, triomphant, en lui fourrant de force le billet dans la main. « Tu es fou !» dit Christophe. « Et la commission de ton père ?» Mannheim se tordait. « Il sera dans une colère » fit-il. Il s'essuya les yeux et conclut « Je le taperai demain matin au seau du lit avant qu'il sache encore rien. »« Je ne peux pas accepter, » dit Christophe, sachant que cela lui serait désagréable. « Tu n'as rien à savoir, tu ne sais rien, cela ne te regarde pas. » Christophe avait déplié le billet. « Et que veux-tu que je fasse d'une loge de 4 places ?»« Tout ce que tu voudras. Tu dormiras au fond, tu danseras, si tu veux, amène-y des femmes. Tu en as bien quelques-unes, on peut t'en prêter. » Christophe tendit le billet à Mannheim. « Non, décidément, reprends-le. »« Jamais de la vie, » fit Mannheim, reculant de quelques pas. « Je ne peux pas te forcer à y aller si cela t'ennuie. Mais je ne le reprendrai pas. Tu es libre de le jeter au feu, ou même, homme vertueux, de le porter au Grunebaum. Cela ne me regarde plus, bonsoir. » Il se sauva, plantant là Christophe au milieu de la rue, son billet à la main. Christophe était embarrassé. Il se disait bien qu'il serait convenable de porter les places au Grunebaum. Mais cette idée ne l'enthousiasmait point. Il rentra indécis. Et quand il s'avisa de regarder l'heure, il vit qu'il n'avait plus que le temps de s'habiller pour aller au théâtre. Il eût été tout de même trop sot de laisser perdre le billet. Il proposa à sa mère de l'emmener, mais Louisa déclara qu'elle aimait bien mieux aller se coucher. Il partit. Au fond, il avait un plaisir d'enfant. Une seule chose l'ennuyait, d'avoir ce plaisir seul. Il n'éprouvait aucun remords à l'égard du père Mannheim ou des Grunebaum, dont il prenait la loge. Mais il en avait vis-à-vis de ceux qui auraient pu la partager avec lui. Il pensait combien cela aurait fait de joie à des jeunes gens comme lui. Et il lui était pénible de ne pas la leur faire. Il cherchait dans sa tête, il ne voyait pas à qui offrir son billet. D'ailleurs, il était tard, il fallait se hâter. Comme il entrait au théâtre, il passa près du guichet fermé, où un écriteau marquait qu'il ne restait plus une seule place au bureau. Parmi les gens qui s'en retournaient, dépités, il remarqua une jeune fille qui ne pouvait se décider à sortir et regardait ceux qui entraient d'un air d'envie. Elle était mise très simplement, en noir, pas très grande, la figure amincie, l'air délicat, et il ne remarqua pas si elle était laide ou jolie. Il avait passé devant elle. Il s'arrêta un moment, se retourna, et sans prendre le temps de réfléchir, « Vous n'avez pas trouvé de place, mademoiselle ? » demanda-t-il à brûle-pourpoint. Elle rougit et dit avec un accent étranger, « Non, monsieur. J'ai une loge, dont je ne sais que faire. Voulez-vous en profiter avec moi ?» Elle rougit plus fort et remercia, en s'excusant de ne pouvoir accepter. Christophe, gêné par son refus, s'excusa de son côté et essaya d'insister. Mais il ne réussit pas à la persuader, bien qu'il fût évident qu'elle en mourait d'envie. Il était perplexe. Il se décida brusquement. « Écoutez, il y a un moyen de tout arranger, » dit-il. « Prenez le billet. Moi, je n'y tiens pas. J'ai déjà vu cela. » Il se vantait. « Cela vous fera plus plaisir qu'à moi. Prenez, c'est de bon cœur. » La jeune fille fut si touchée de l'offre et de la façon cordiale que les larmes lui en montèrent presque aux yeux. Elle balbutia avec reconnaissance que jamais elle ne voudrait l'en priver. « Eh bien alors, venez, » dit-il en souriant. Il avait l'air si bon et si franc qu'elle se sentit honteuse de lui avoir refusé, et elle dit un peu confuse, « Je viens. Merci. » Ils entrèrent. La loge des Mannheim était une loge de face largement ouverte. Impossible de s'y dissimuler. Leur entrée ne passa pas inaperçue. Christophe fit placer la jeune fille au premier rang et resta un peu en arrière pour ne pas la gêner. Elle se tenait droite, raide, n'osant tourner la tête, horriblement intimidée. Elle lui donnait beaucoup pour ne pas avoir accepté. Afin de lui laisser le temps de se remettre, et ne sachant de quoi causer, Christophe affectait de regarder d'un autre côté. Où qu'il regardât, il lui était facile de constater que sa présence, avec cette compagne inconnue, au milieu de la brillante clientèle des loges, excitait la curiosité et les commentaires de la petite ville. Il lança à droite et à gauche des regards furieux. Il rageait qu'on s'obstinât à s'occuper de lui quand il ne s'occupait pas des autres. Il ne pensait pas que cette curiosité indiscrète s'adressât à sa compagne encore plus qu'à lui, et d'une façon plus blessante. Pour montrer sa parfaite indifférence à tout ce qu'il pourrait dire ou penser, il se pencha vers sa voisine et se mit à causer. Elle eut l'air si effarouchée de ce qu'il lui parla, et si malheureuse d'avoir à lui répondre, elle eut tant de peine à s'arracher un « oui » ou un « non » sans oser le regarder, qu'il eut pitié de sa sauvagerie et se renfonça dans son coin. Heureusement, le spectacle commençait. Christophe n'avait pas lu l'affiche, et il ne s'était guère soucié de savoir quel rôle jouait la grande actrice. Il était de ces naïfs qui viennent au théâtre pour voir la pièce et non pas les acteurs. Il ne s'était pas demandé si l'illustre comédienne serait Ophélie ou la reine. S'il se l'était demandé, il eût opiné pour la reine, vu l'âge des deux matrones. Mais ce qui n'aurait jamais pu lui venir à l'idée, c'est qu'elle jouât Hamlet. Quand il le vit, quand il entendit ce timbre de poupée mécanique, il fut un bon moment avant d'y croire. « Mais qui est-ce ? » se disait-il à mi-voix. « Ce n'est pourtant pas... » Et quand il lui fallut constater que c'était pourtant Hamlet, il poussa un juron qu'heureusement sa voisine ne comprit pas, parce qu'elle était étrangère, mais que l'on comprit parfaitement dans la loge d'à côté, car il lui en vint sur le champ l'ordre indigné de se taire. Il se retira au fond de la loge pour pester à son aise. Il ne décolérait pas. S'il eût été juste, il eût rendu hommage à l'élégance du travesti et au tour de force de l'art qui permettait à cette femme sexagénaire de se montrer dans le costume d'un adolescent et même d'y paraître belle, du moins à des yeux complaisants. Mais il haïssait les tours de force et tout ce qui fausse la nature. Il aimait qu'une femme fût une femme et un homme un homme. La chose n'est pas commune aujourd'hui. Le travesti enfantin et un peu ridicule de la Léonore de Beethoven ne lui était pas agréable. Mais celui d'Hamlet dépassait la limite permise à l'absurdité. Faire du robuste Danois, gras et blême, colérique, rusé, raisonneur, halluciné, une femme, même pas une femme, car une femme qui joue l'homme ne sera jamais qu'un monstre, faire d'Hamlet un eunuque ou un louche androgyne, il fallait toute la veulerie du temps et la niaiserie de la critique pour que cette dégoûtante sottise pût être tolérée un seul jour, sans sifflet. La voix de l'actrice achevait de mettre Christophe hors de lui. Elle avait cette diction chantante et martelée, cette mélopée monotone qui, depuis la Champmêlée, semble avoir toujours été chère au peuple le moins poétique du monde. Christophe en était si exaspéré qu'il avait envie de marcher à quatre pattes. Il avait tourné le dos à la scène, et il faisait des grimaces de colère, le nez contre le mur de la loge, comme un enfant mis au piquet. Fort heureusement, sa compagne n'osait pas regarder de son côté, car si elle l'avait vu, elle l'eût pris pour un fou. Soudain, les grimaces de Christophe s'arrêtèrent. Il resta immobile et se tut. Une belle voix musicale, une jeune voix féminine, grave et douce, venait de se faire entendre. Christophe dressa l'oreille. À mesure qu'elle parlait, il se retournait, intrigué, sur sa chaise, pour voir l'oiseau qui avait ce ramage. Il vit Ophélie. Certes, elle n'avait rien de l'Ophélie de Shakespeare. C'était une belle fille, grande, robuste, élancée, comme une jeune statue grecque, Électre ou Cassandra. Elle débordait de vie. Malgré tous ses efforts pour s'enfermer dans son rôle, une force de jeunesse et de joie rayonnait de sa chair, de ses gestes, de ses yeux bruns qui riaient. Tel est le pouvoir d'un beau corps que Christophe, impitoyable l'instant d'avant pour l'interprétation d'Hamlet, ne songea pas un moment à regretter que l'Ophélie ne ressemblât guère à l'image qu'il s'en faisait. et il sacrifia sans remords celle-ci à celle-là. Avec l'inconsciente mauvaise foi des passionnés, il trouva même une vérité profonde à cette ardeur juvénile qui brûlait au fond de ce cœur de vierge, chaste et trouble. Ce qui achevait le charme, c'était la magie de la voix, pure, chaude et veloutée. Chaque mot sonnait comme un bel accord. Autour des syllabes dansait, comme une odeur de thym ou de menthe sauvage, l'accent riant du midi, au rythme rebondissant. Étrange vision d'une Ophélie du pays d'Arles. Elle apportait avec elle un peu de son soleil d'or et de son mistral fou. Oubliant sa voisine, Christophe s'était assis à côté d'elle, sur le devant de la loge. Et il ne quittait pas des yeux la belle actrice dont il ignorait le nom. Mais le public, qui ne venait point pour entendre une inconnue, ne lui prêtait aucune attention, et il ne se décidait à applaudir que quand l'Hamlet femelle parlait, ce qui faisait que Christophe grondait et les appelait « Anne » d'une voix basse qui s'entendait à 10 pas. Ce ne fut que lorsque le rideau fut tombé pour l'entracte qu'il se rappela l'existence de sa compagne de loge. Et, la voyant toujours intimidée, il songea en souriant qu'il avait dû l'effarer par ses extravagances. Il ne se trompait pas. Cette âme de jeune fille, que le hasard avait rapprochée de lui pour quelques heures, était d'une réserve presque maladive. Il avait fallu qu'elle fût dans un état d'exaltation anormale pour oser accepter l'invitation de Christophe. Et à peine avait-elle accepté qu'elle eût souhaité, pour tout au monde, de pouvoir se dégager, trouver un prétexte, s'enfuir. Ça avait été bien pis quand elle s'était vue l'objet de la curiosité générale. Et son malaise n'avait fait que croître à mesure qu'elle entendait derrière son dos, elle n'osait se retourner, les sourdes imprécations et les grognements de son compagnon. Elle s'attendait à tout de sa part, et quand il vint s'asseoir à côté d'elle, elle fut glacée d'effroi. Quelle excentricité n'allait-il pas encore faire? Elle eût voulu être à 100 pieds sous terre. Elle se reculait instinctivement, elle avait peur de l'effleurer. Mais toutes ses craintes tombèrent lorsque, l'entracte venu, elle l'entendit lui dire avec bonhomie « Je suis un voisin bien désagréable, n'est-ce pas? Je vous demande pardon. » Alors elle le regarda, et elle lui vit son bon sourire qu'il avait tout à l'heure décidé à venir. Et il continua « Je ne sais pas cacher ce que je pense. Mais aussi, c'était trop fort. Cette femme, cette vieille femme !» Il fit de nouveau une grimace de dégoût. Elle sourit et dit tout bas « Malgré tout, c'est beau. » Il remarqua son accent et demanda « Vous êtes étrangère ?»« Oui, » fit-elle. Il regarda sa modeste petite robe. « Institutrice » dit-il. Elle rougit et dit « Oui. Quel pays ?» Elle dit « Je suis française. » Il fit un geste d'étonnement. « Française ? Je ne l'aurais jamais cru. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle timidement. « Vous êtes si sérieuse, » dit-il. Elle pensa que ce n'était pas tout à fait un compliment dans sa bouche. « Il y en a aussi comme cela en France, » dit-elle, toute confuse. Il regardait son honnête petite figure, au front bombé, au petit nez droit, au menton fin, ses joues maigres qu'encadraient ses cheveux châtains. Il ne la voyait pas. Il pensait à la belle actrice. Il répéta « C'est curieux que vous soyez française. Vraiment, vous êtes du même pays qu'Ophélie. On ne le croirait jamais. » Il ajouta, après un instant de silence, « Comme elle est belle !» sans s'apercevoir qu'il avait l'air d'établir entre elle et sa voisine une comparaison désobligeante pour celle-ci. Elle la sentit très bien, mais elle n'en voulut pas à Christophe, car elle pensait comme lui. Il essaya d'avoir d'elle quelques détails sur l'actrice, mais elle ne savait rien. On voyait qu'elle était très peu au courant des choses de théâtre. « Cela doit vous faire plaisir d'entendre parler français, » demanda-t-il. Il croyait plaisanter. Il avait touché juste. « Ah ! » fit-elle avec un accent de sincérité qui le frappa, « cela me fait tant de bien. J'étouffe ici. » Il la regarda mieux cette fois, elle crispait légèrement les mains et semblait oppressée. Mais aussitôt, elle songea à ce qu'il pouvait y avoir de blessant pour lui dans cette parole. « Oh, pardon, » dit-elle, « je ne sais pas ce que je dis. » Il rit franchement. « Ne vous excusez donc pas, vous avez joliment raison. Il n'y a pas besoin d'être français pour étouffer ici. » « Ouf !» Il leva les épaules en aspirant l'air. Mais elle avait honte de s'être ainsi livrée, et elle se tut désormais. D'ailleurs, elle venait d'apercevoir que des loges voisines en épiaient leur conversation. Et il le remarqua aussi avec colère. Ils s'interrompirent donc, et en attendant la fin de l'entracte, il sortit dans le couloir du théâtre. Les paroles de la jeune fille résonnaient à son oreille, mais il était distrait. L'image d'Ophélie occupait sa pensée. Elle acheva de s'emparer de lui dans les actes suivants, et lorsque la belle actrice arriva à la scène de la folie, aux mélancoliques chansons d'amour et de mort, sa voix sut y trouver des accents si touchants qu'il en fut bouleversé. Il sentit qu'il allait se mettre à pleurer comme un veau. Furieux contre lui-même de ce qui lui semblait une marque de faiblesse, car il n'admettait point qu'un vrai artiste pleurât, et ne voulant pas se donner en spectacle, il sortit brusquement de la loge. Les couloirs, le foyer, étaient vides. Dans son agitation, il descendit les escaliers du théâtre et sortit sans s'en apercevoir. Il avait besoin de respirer l'air frais de la nuit, de marcher à grands pas dans les rues sombres et à demi désertes. Il se retrouva au bord du canal, accoudé sur le parapet de la berge et contemplant l'eau silencieuse où dansaient dans l'ombre les reflets des réverbères. Son âme était pareille, obscure et trépidante. Il n'y pouvait rien voir qu'une grande joie qui dansait à la surface. Les horloges tintèrent. Il lui eût été impossible de retourner au théâtre et d'entendre la fin de la pièce. Voir le triomphe de Fortinbras? Non, cela ne le tentait pas. Beau triomphe! Qui pense à envier le vainqueur? Qui voudrait être lui, après qu'on ait gorgé de toutes les sauvageries de la vie féroce et ridicule? L'œuvre est un réquisitoire formidable contre la vie. Mais une telle puissance de vie bout en elle que la tristesse devient joie, et l'amertume enivre. Christophe revint chez lui sans plus se soucier de la jeune fille inconnue qu'il avait laissée dans sa loge et dont il ne savait même pas le nom. Le lendemain matin, il alla voir l'actrice dans l'hôtellerie de troisième ordre où l'impresario l'avait reléguée avec ses camarades, tandis que la grande comédienne était descendue au premier hôtel de la ville. On le fit entrer dans un petit salon mal tenu où les restes du déjeuner traînaient sur un piano ouvert, avec des épingles à cheveux et des feuilles de musique déchirées et malpropres. Dans la chambre à côté, Ophélie chantait à tue-tête, comme un enfant, pour le plaisir de faire du bruit. Elle s'interrompit un instant quand on lui annonça la visite et demanda d'une voix joyeuse, qui ne prenait nul souci de n'être pas entendue de l'autre côté du mur, « Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? Comment est-ce qu'il se nomme ?»« Christophe? Christophe quoi ?» Christophe Kraft? Quel nom! Elle le répéta deux ou trois fois en faisant terriblement rouler les R. On dirait un juron. Elle en dit un. Est-ce qu'il est jeune ou vieux? Gentil? C'est bon, j'y vais. Elle se remit à chanter Rien n'est plus doux que mon amour. En furetant à travers la chambre et pestant contre une épingle d'écaille qui se faisait chercher au milieu du fouillis. Elle s'impatienta, elle se mit à gronder, elle fit le lion. Bien qu'il ne la vît pas, Christophe suivait par la pensée tous ses gestes derrière le mur, et il riait tout seul. Enfin, il entendit les pas se rapprocher, la porte s'ouvrit impétueusement, et Ophélie parut. Elle était à demi vêtue, dans un peignoir qu'elle serrait autour de la taille, les bras nus dans les larges manches, les cheveux mal peignés, des boucles tombant sur les yeux et les joues. Ses beaux yeux bruns riaient, sa bouche riait, ses joues riaient, une aimable fossette riait au milieu de son menton. De sa belle voix grave et chantante, elle s'excusa à peine de se montrer ainsi. Elle savait qu'il n'y avait pas de quoi s'excuser et qu'il ne pouvait lui en être que très reconnaissant. Elle croyait qu'il était un journaliste qui venait l'interviewer. Au lieu d'être déçue, quand il dit qu'il venait uniquement pour son compte et parce qu'il l'admirait, elle en fut ravie. Elle était bonne fille, affectueuse, enchantée de plaire et ne cherchait pas à le cacher. La visite de Christophe et son enthousiasme la rendaient heureuse. Elle n'était pas encore gâtée par les compliments. Elle était si naturelle dans tous ses mouvements et dans toutes ses façons, même dans ses petites vanités et dans le plaisir naïf qu'elle avait à plaire, qu'il n'éprouva pas le moindre instant de gêne. Ils furent tout de suite de vieux amis. Il baragouinait un peu de français, elle baragouinait quelques mots d'allemand. Au bout d'une heure, ils se racontaient tous leurs secrets. Elle ne pensait aucunement à leur envoyer. Cette méridionale robuste et gaie, intelligente et expansive, qui eût crevé d'ennui au milieu de ses stupides compagnons et d'un pays dont elle ne savait pas la langue, sans la joie naturelle qui était en elle, était contente de trouver à qui parler. Quant à Christophe, c'était un bien inexprimable pour lui de rencontrer dans sa ville de petits bourgeois étriqués et peu sincères cette libre fille du Midi, pleine de sève populaire. Il ne savait pas encore le factice de ses natures qui, à la différence de ses Allemands, n'ont rien de plus dans le cœur que ce qu'elles montrent, et souvent ne l'ont pas. Au moins, elle était jeune, elle vivait, elle disait franchement, crûment ce qu'elle pensait. Elle jugeait tout, librement, d'un regard frais et neuf. On respirait en elle un peu de son mistral balayeur de brouillard. Elle était bien douée, sans culture et sans réflexion, elle sentait sur le champ et de tout son cœur, jusqu'à en être sincèrement émue, les choses qui étaient belles et bonnes. Et puis, l'instant d'après, elle riait aux éclats. Certes, elle était coquette et jouait des prunelles. Il ne lui déplaisait pas de montrer sa gorge nue sous le peignoir entr'ouvert. Elle eût aimé tourner la tête à Christophe, mais c'était pur instinct. Nul calcul. Elle aimait encore mieux rire, causer gaiement, être bon camarade, bon garçon, sans gêne et sans façon. Elle lui raconta les dessous de la vie de théâtre, ses petites misères, les susceptibilités niaises de ses camarades, les tracasseries de Jézabel, elle appelait ainsi la grande comédienne, qui était attentive à ne pas la laisser briller. Il lui confia ses doléances sur les Allemands, elle battit des mains et fit chorus avec lui. Elle était bonne d'ailleurs et ne voulait dire du mal de personne, mais cela ne l'empêchait pas d'en dire, et tout en s'accusant de malignité, quand elle plaisantait quelqu'un, elle avait ce don d'observation réaliste et bouffonne propre aux gens du Midi. Elle n'y pouvait résister et faisait des portraits à l'emporte-pièce. Elle riait joyeusement de ses lèvres pâles qui découvraient ses dents jaunes de jeune chien, et ses yeux cernés brillaient dans sa figure un peu blême que le phare avait décolorée. Ils s'aperçurent tout à coup qu'il y avait plus d'une heure qu'ils causaient. Christophe proposa à Corinne, c'était son nom de théâtre, de venir la reprendre dans l'après-midi pour la piloter à travers la ville. Elle fut enchantée de l'idée. Ils se donnèrent rendez-vous aussitôt après le dîner. À l'heure dite, il fut là. Corinne était assise dans le petit salon de l'hôtel et tenait un cahier qu'elle lisait tout haut. Elle l'accueillit avec ses yeux riants, sans s'interrompre de lire jusqu'à ce qu'elle eût fini sa phrase. Puis elle lui fit signe de s'asseoir sur le canapé auprès d'elle. « Mettez-vous là et ne causez pas, dit-elle. Je repasse mon rôle. J'en ai pour un quart d'heure. » Elle suivait sur le manuscrit du bout de l'ongle, en lisant très vite et au hasard, comme une petite fille pressée. Il s'offrit à lui faire réciter sa leçon. Elle lui donna le cahier et se leva pour répéter. Elle annonnait ou recommençait quatre fois une fin de phrase avant de se lancer dans la phrase suivante. Elle secouait la tête en récitant son rôle. Ses épingles à cheveux tombaient tout le long de la chambre. Quand un mot obstiné refusait d'entrer dans sa mémoire, elle avait des impatiences d'enfant mal élevé. Il lui échappait un juron drôlatique ou même d'assez gros mots, un très gros et très court dont elle s'apostrophait elle-même. Christophe était surpris de son mélange de talent et d'enfantillage. Elle trouvait des intonations justes et émouvantes. Mais au beau milieu de la tirade où elle semblait mettre tout son cœur, il lui arrivait de dire des mots qui n'avaient aucun sens. Elle récitait sa leçon comme un petit perroquet, sans s'inquiéter de ce que cela signifiait. Et c'était alors des coq-à-l'âne burlesques. Elle ne s'en affectait point. Quand elle s'en apercevait, elle riait à se tordre. À la fin, elle dit « Zut !» Elle lui arracha le cahier des mains, le lança à la volée dans un coin de la chambre et dit « Vacances, l'heure est sonnée. Allons-nous promener. » Un peu inquiet au sujet de son rôle, il demanda par scrupule « Vous croyez que vous saurez ?» Elle répondit avec assurance « Bien sûr !» Et le souffleur, pourquoi est-ce qu'il serait fait alors? Elle passa dans sa chambre pour mettre son chapeau. Christophe, en l'attendant, s'assit devant le piano et tapota quelques suites d'accords. De l'autre pièce, elle cria, « Oh, qu'est-ce que c'est que cela? Jouez encore! Que c'est joli !» Elle accourut en se piquant son chapeau sur la tête. Il continua. Quand il eut fini, elle voulut qu'il continuât encore. Elle s'extasiait avec ses petites exclamations mièvres et menues, dont les Françaises sont coutumières, et qu'elle prodigue aussi bien à propos de Tristan que d'une tasse de chocolat. Christophe riait. Cela le changeait des exclamations énormes et emphatiques de ces Allemands. Deux exagérations contraires. L'une tendait à faire d'un bibelot une montagne, l'autre faisait d'une montagne un bibelot. Celle-ci n'était pas moins ridicule que celle-là. Mais elle lui semblait, pour l'instant, plus aimable, parce qu'il aimait la bouche d'où elle sortait. Corinne voulut savoir de qui était ce qu'il jouait. Et quand elle sut que c'était de lui, elle poussa des cris. Il lui avait bien dit, dans leur conversation du matin, qu'il était compositeur. mais elle n'y avait fait aucune attention. Elle s'assit auprès de lui et exigea qu'il jouât tout ce qu'il avait composé. La promenade fut oubliée. Ce n'était pas simple politesse de sa part, elle adorait la musique, et elle avait un instinct admirable qui suppléait à l'insuffisance de son instruction. D'abord, il ne la prit pas au sérieux, et lui joua ses mélodies les plus faciles. Mais quand, par hasard, ayant été amené à jouer une page à laquelle il tenait davantage, il vit, sans qu'il lui en eût rien dit, que c'était celle aussi qu'elle préférait, il eut une joyeuse surprise. Avec le naïf étonnement des Allemands, quand ils rencontrent un Français qui est bon musicien, il lui dit « C'est curieux, comme vous avez le goût bon, je n'aurais jamais cru. » Corinne lui rit au nez. Il s'amusa dès lors à faire choix d'œuvres de plus en plus difficiles à comprendre pour voir jusqu'où elle le suivrait. Mais elle ne semblait pas déroutée par des hardiesses expressives. Et après une mélodie particulièrement neuve, dont Christophe avait presque fini par douter, parce qu'il n'avait jamais réussi à la faire goûter en Allemagne, quel fut son étonnement quand Corinne le supplia de recommencer, et, se levant, se mit à chanter les notes de mémoire sans presque se tromper. Il se retourna vers elle et lui saisit les mains avec effusion. « Mais vous êtes musicienne » cria-t-il. Elle se mit à rire et expliqua qu'elle avait débuté comme chanteuse dans un opéra de province, mais qu'un impresario en tournée avait reconnu ses dispositions pour le théâtre poétique et l'avait poussée de ce côté. Il s'exclamait « Quel dommage !»« Pourquoi » fit-elle. « La poésie est aussi une musique ?» Elle se fit expliquer le sens de ses Lieder. Il lui disait les mots allemands et elle les répétait avec une facilité simiesque, copiant jusqu'au plissement de sa bouche et de ses yeux. Quand il s'agissait ensuite de chanter de mémoire, elle faisait des erreurs bouffonnes. Et quand elle ne savait plus, elle inventait des mots aux sonorités gutturales et barbares qui les faisaient rire tous deux. Elle ne se lassait pas de le faire jouer, ni lui de jouer pour elle et d'entendre sa jolie voix, qui ne connaissait pas les roueries du métier et chantait un peu de la gorge, à la façon d'une petite fille, mais qui avait un je ne sais quoi de fragile et de touchant. Elle disait franchement ce qu'elle pensait. Bien qu'elle ne sût pas expliquer pourquoi elle aimait ou n'aimait pas, il y avait toujours dans ses jugements une raison cachée. Chose curieuse, c'était dans les pages les plus classiques et les plus appréciées en Allemagne qu'elle se trouvait le moins à l'aise. Elle faisait quelques compliments par politesse, mais on voyait que cela ne lui disait rien. Comme elle n'avait pas de culture musicale, elle n'avait pas ce plaisir que procure inconsciemment aux amateurs et même aux artistes le « déjà entendu » et qui leur fait reproduire à leur insu ou aimer dans une œuvre nouvelle des formes ou des formules qu'ils ont aimées déjà dans des œuvres anciennes. Elle n'avait pas non plus le goût allemand pour la sentimentalité mélodieuse, ou du moins sa sentimentalité était autre. Il n'en connaissait pas encore les défauts. Elle ne s'extasiait point sur les passages d'une fadeur un peu molle qu'on préférait en Allemagne. Elle n'apprécia point le plus médiocre de ses Lieder, une mélodie qu'il eût voulu pouvoir détruire parce que ses amis ne lui parlaient que de cela, trop heureux de pouvoir le complimenter pour quelque chose. L'instinct dramatique de Corinne lui faisait préférer les mélodies qui retraçaient avec franchise une passion précise. C'était aussi à celle-là qu'il attachait le plus de prix. Toutefois, elle manifestait son peu de sympathie pour certaines rudesses d'harmonie qui semblaient naturelles à Christophe. Elle éprouvait un heurt. Elle s'arrêtait devant et demandait si vraiment c'était comme ça. Quand il disait que oui, alors elle se décidait à sauter le pas difficile. Mais ensuite, elle faisait une petite grimace de la bouche qui n'échappait point à Christophe. Souvent, elle aimait mieux passer la mesure. Alors, il la refaisait au piano. « Vous n'aimez pas cela ?» demandait-il. Elle fronçait le nez. « C'est faux, » disait-elle. « Non pas, » faisait-il en riant. « C'est vrai. » Réfléchissez à ce qu'il dit. « Est-ce que ce n'est pas juste, ici ?» Il montrait son cœur. Mais elle secouait la tête. « Peut-être bien, mais c'est faux, là !» Elle se tirait l'oreille. Elle se montrait aussi choquée par les grands sauts de voix de la déclamation allemande. « Pourquoi est-ce qu'il parle si fort ?» demandait-elle. « Il est tout seul. Est-ce qu'il ne craint pas que ses voisins ne l'entendent ? Il a l'air... Pardon, vous ne vous fâcherez pas ? Il a l'air de héler un bateau. » Il ne se fâchait pas. Il riait de bon cœur et reconnaissait qu'il y avait là du vrai. Ses observations l'amusaient. Personne ne le lui avait encore faite. Ils convinrent que la déclamation chantée déforme le plus souvent la parole naturelle à la façon d'un vers grossissant. Corinne demanda à Christophe d'écrire pour elle la musique d'une pièce où elle parlerait sur l'accompagnement de l'orchestre avec quelques phrases chantées de temps en temps. Il s'enflamma pour cette idée, malgré les difficultés de réalisation scénique que la voix musicale de Corinne lui semblait propre à surmonter, et ils firent des projets pour l'avenir. Il n'était pas loin de 5 heures quand ils pensèrent à sortir. À cette saison, la nuit tombait tôt. Il ne pouvait plus être question de se promener. Le soir, Corinne avait répétition au théâtre. Personne n'y pouvait assister. Elle lui fit promettre de revenir la prendre dans l'après-midi du lendemain pour faire la promenade projetée. Le lendemain, la même scène faillit se renouveler. Il trouva Corinne devant son miroir, juchée sur un haut tabouret, les jambes pendantes. Elle essayait une perruque. Il y avait là son habilleuse et un coiffeur à qui elle faisait des recommandations au sujet d'une boucle qu'elle voulait plus relever. Tout en se regardant dans la glace, elle y regardait Christophe, qui souriait derrière son dos. Elle lui tira la langue. Le coiffeur partit avec la perruque, et elle se retourna gaiement vers Christophe. « Bonjour, ami, » dit-elle. Elle lui tendait la joue pour qu'il l'embrassât. Il ne s'attendait pas à être si intime, mais il n'eut garde de n'en pas profiter. Elle n'attachait pas tant d'importance à cette faveur. C'était pour elle un bonjour comme un autre. « Oh, je suis contente, » dit-elle. « ça ira ce soir. » Elle parlait de sa perruque. « J'étais si désolée. Si vous étiez venue ce matin, vous m'auriez trouvée malheureuse comme les pierres. » Il demanda pourquoi. C'était parce que le coiffeur parisien s'était trompé dans ses emballages et qu'il lui avait mis une perruque qui ne convenait pas au rôle. « Toute plate, » disait-elle, et tombant tout droit, bêtement. « Quand j'ai vu cela, j'ai pleuré, pleuré comme une madeleine. N'est-ce pas, Madame Désirée ?»« Quand je suis entrée, » dit celle-ci, « Madame m'a fait peur. Madame était toute blanche. Madame était comme morte. » Christophe rit. Corinne le vit dans la glace. « Cela vous fait rire, sans cœur, » dit-elle, indignée. Elle rit aussi. Il lui demanda comment avait été la répétition de la veille. Tout avait très bien marché. Elle eût voulu seulement qu'on fît plus de coupures dans les rôles des autres et qu'on n'en fît pas dans le sien. Ils causèrent si bien qu'une partie de l'après-midi y passa. Elle s'habilla longuement. Elle s'amusait à demander l'avis de Christophe sur ses toilettes. Christophe loua son élégance et lui dit naïvement, dans son jargon franco-allemand, qu'il n'avait jamais vu personne d'aussi luxurieux. Elle le regarda d'abord interloqué, puis poussa de grands éclats de rire. « Qu'est-ce que j'ai dit ? » demanda-t-il. « Ce n'est pas comme cela qu'il faut dire ?»« Si, si, » cria-t-elle en se tordant de rire. « C'est justement cela. » Ils sortirent enfin. Sa toilette tapageuse et sa parole exubérante attiraient l'attention. Elle regardait tout avec ses yeux de française railleuse et ne se préoccupait pas de cacher ses impressions. Elle pouffait devant les étalages de mode ou devant les magasins de cartes postales illustrées où l'on voyait pêle-mêle des scènes sentimentales, des scènes bouffes et grivoises, les cocottes de la ville, la famille impériale, l'empereur en habit rouge, l'empereur en habit vert, l'empereur en loup de mer, tenant le gouvernail du navire Germania et défiant le ciel. Elle s'esclaffait devant un service de table orné de la tête revêche de Wagner, ou devant une devanture de coiffeur où trônait une tête d'homme en cire. Elle manifestait une hilarité peu décente devant le monument patriotique qui représentait le vieil empereur, en par-dessus de voyage et casque à pointe, en compagnie de la Prusse, des États allemands et du génie de la guerre tout nu. Elle happait au passage tout ce qui, dans la physionomie des gens, leur démarche ou leur façon de parler, prêtait à la raillerie. Ses victimes ne pouvaient s'y tromper, au coup d'œil malicieux qui cueillait leur ridicule. Son instinct simiesque lui faisait même parfois, sans qu'elle y réfléchît, imiter des lèvres et du nez leurs grimaces épanouies ou renfrognées. Elle gonflait les joues pour répéter des fragments de phrases ou de mots qu'elle avait saisis au vol, et dont la sonorité lui paraissait burlesque. Il en riait de tout son cœur, nullement gêné par ses impertinences, car il ne se gênait pas davantage. Heureusement, sa réputation n'avait plus grand-chose à perdre, car une telle promenade était faite pour la couler à jamais. Ils visitèrent la cathédrale. Corinne voulut grimper jusqu'au faîte de la flèche, malgré ses talons hauts et sa robe trop longue, qui balayait les marches, et finit par se prendre à un angle de l'escalier. Elle ne s'en émut pas, tira bravement sur l'étoffe qui craqua, et continua de grimper en se retroussant gaillardement. Peu s'en fallut qu'elle ne sonna les cloches. Du haut des tours, elle déclama du Victor Hugo, auquel il ne comprit rien, et chanta une chanson populaire française. Après quoi elle fit le muezzin. Le crépuscule tombait. Ils redescendirent dans l'église, d'où l'ombre épaisse montait le long des murs gigantesques, au front desquels luisaient les prunelles magiques des vitraux. Christophe vit, agenouillée dans une des chapelles latérales, la jeune fille qui avait été sa compagne de loge à la représentation d'Hamlet. Elle était si absorbée dans sa prière qu'elle ne le vit point. Elle avait une expression douloureuse et tendue qui le frappa. Il eût voulu lui dire quelques mots, la saluer au moins, mais Corinne l'entraîna dans son tourbillon. Ils se quittèrent peu après. Elle devait se préparer pour la représentation, qui commençait de bonne heure, suivant l'usage d'Allemagne. Il venait à peine de rentrer qu'on sonnait à sa porte pour lui remettre ce billet de Corinne. « Veine, Jézabel malade, relâche, vive la classe. Amis, venez, ferons la dînette ensemble. Amis, Corinette. P.S. Portez beaucoup de musique. » Il eut quelque peine à comprendre. Quand il eut compris, il fut aussi content que Corinne et se rendit aussitôt à l'hôtel. Il craignait de trouver toute la troupe réunie au dîner, mais il ne vit personne. Corinne même avait disparu. À la fin, il entendit sa voix bruyante et riante tout au fond de la maison. Il se mit à sa recherche et parvint à la découvrir dans la cuisine. Elle s'était mis en tête d'exécuter un plat de sa façon, un de ces plats méridionaux dont l'arôme indiscret remplit tout un quartier et réveillerait les pierres. Elle était au mieux avec la grosse patronne de l'hôtel et elles baragouinaient ensemble un jargon effroyable mêlé d'allemands, de français et de nègres qui n'avaient de nom en aucune langue. Elles riaient aux éclats en se faisant goûter mutuellement leurs œuvres. L'apparition de Christophe augmenta le tapage. On voulut le mettre à la porte, mais il se défendit, et il réussit à goûter aussi du fameux plat. Il fit un peu la grimace, sur quoi elle le traita de barbare teuton et dit que ce n'était pas la peine de se donner du mal pour lui. Ils remontèrent ensemble au petit salon, où la table était prête. Il n'y avait que son couvert et celui de Corinne. Il ne put s'empêcher de demander où étaient les camarades. Corinne eut un geste indifférent. « Je ne sais pas. »« Vous ne soupez pas ensemble ?»« Jamais. C'est déjà assez bien de se voir au théâtre. »« Ah bien, s'il fallait encore se trouver à table. » Cela était si différent des habitudes allemandes qu'il en fut étonné et charmé. « Je croyais, dit-il, que vous étiez un peuple sociable. »« Eh bien, fit-elle, est-ce que je ne suis pas sociable ?» Sociable, cela veut dire vivre en société. Il faut nous voir, nous autres. Hommes, femmes, enfants, chacun fait partie des sociétés du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Tout se fait en société. On mange, on chante, on pense avec la société. Quand la société éternue, on éternue avec elle. On ne boit pas une chope sans boire avec la société. Ce doit être gai, dit-elle. Pourquoi pas dans le même verre? N'est-ce pas fraternel? Zut pour la fraternité. Je veux bien être frère de ceux qui me plaisent. Je ne le suis pas des autres. Pouah, ce n'est pas une société, cela, c'est une fourmilière. Jugez donc comme je dois être à mon aise ici, moi qui pense comme vous. Venez chez nous, alors. Il ne demandait pas mieux. Il l'interrogea sur Paris et sur les Français. Elle lui donna des renseignements qui n'étaient pas d'une exactitude parfaite. À sa hâblerie de méridionale, se joignait le désir instinctif d'éblouir son interlocuteur. À l'en croire, à Paris, tout le monde était libre, et comme tout le monde à Paris était intelligent, chacun usait de la liberté, personne n'en abusait. Chacun faisait ce qui lui plaisait, pensait, croyait, aimait ou n'aimait point ce qu'il voulait. Personne n'avait rien à y redire. Ce n'était point là qu'on pouvait voir les gens se mêler des croyances des autres, espionner les consciences, régenter les pensées. Ce n'était point là que les âmes politiques s'immisçaient aux affaires des lettres et des arts et distribuaient les croix, les places et l'argent à leurs amis et à leurs clients. Ce n'était point là que les cénacles disposaient de la réputation et du succès, que les journalistes s'achetaient, que les hommes de lettres se cassaient les encensoirs sur la tête quand ils ne pouvaient pas se casser la tête avec. Ce n'était point là que la critique étouffait les talents inconnus et s'épuisait en adulation devant les talents reconnus. Ce n'était point là que le succès à tout prix, justifiait tous les moyens et commandait l'adoration publique. des mœurs douces, affectueuses, obligeantes. Nulle aigreur dans les rapports, jamais de médisance. Chacun venait en aide aux autres. Tout nouveau venu de valeur était sûr de voir les mains tendues vers lui, la route aplanie sous ses pas. Le pur amour du beau remplissait ses âmes de Français chevaleresques et désintéressés. Et leur seul ridicule était leur idéalisme qui, malgré leur esprit bien connu, faisait d'eux la dupe des autres peuples. Christophe écoutait bouche bée, et il y avait bien de quoi s'émerveiller. Corinne s'émerveillait elle-même en s'écoutant parler. Elle en avait oublié ce qu'elle avait dit à Christophe le jour d'avant sur les difficultés de sa vie passée, et elle n'y songeait même plus, et il n'y songeait pas plus qu'elle. Cependant, Corinne n'était pas uniquement préoccupée de faire aimer sa patrie aux Allemands, elle ne tenait pas moins à se faire aimer elle-même. Toute une soirée sans flirt lui eût paru austère et un peu ridicule. Elle n'épargnait pas les agaceries à Christophe, mais c'était peine perdue, il ne s'en apercevait pas. Christophe ne savait pas ce que c'était que flirter. Il aimait ou n'aimait point. Lorsqu'il n'aimait point, il était à mille lieues de songer à l'amour. Il avait une vive amitié pour Corinne, il subissait l'attrait de cette nature méridionale si nouvelle pour lui, de sa bonne grâce, de sa belle humeur, de son intelligence vive et libre. C'était là sans doute plus de raison qu'il n'en fallait pour aimer. Mais l'esprit souffle où il veut. Il ne soufflait point là. Et quant à jouer l'amour en l'absence de l'amour, c'était là une idée qui ne lui serait jamais venue. Corinne s'amusait de sa froideur. Assise auprès de lui, devant le piano, tandis qu'il jouait les morceaux qu'il avait apportés, elle avait passé son bras nu autour du cou de Christophe, et pour suivre la musique, elle se penchait vers le clavier, appuyant presque sa joue contre celle de son ami. Il sentait le frôlement de ses cils et voyait, tout contre lui, le coin de sa prunelle moqueuse, son aimable museau et le petit duvet de sa lèvre retroussée qui, souriante, attendait. Elle attendit. Christophe ne comprit pas l'invite. Corinne le gênait pour jouer. C'était tout ce qu'il pensait. Machinalement, il se dégagea et écarta sa chaise. Comme, un moment après, il se retournait vers Corinne pour lui parler, il vit qu'elle mourait d'envie de rire. La fossette de sa joue riait. Elle serrait les lèvres et semblait se tenir à quatre pour ne pas éclater. « Qu'est-ce que vous avez ? » dit-il étonné. Elle le regarda et partit d'un bruyant éclat de rire. Il n'y comprenait rien. « Pourquoi riez-vous ? » demandait-il. « Est-ce que j'ai dit quelque chose de drôle ?» Plus il insistait, plus elle riait. Quand elle était près de finir, il suffisait qu'elle jetât un regard sur son air ahuri pour qu'elle repartît de plus belle. Elle se leva, courut vers le canapé à l'autre bout de la chambre et s'enfonça la figure dans les coussins pour rire à son aise. Son corps riait tout entier. Il fut gagné par son rire, il vint vers elle et lui donna de petites tapes dans le dos. Quand elle eut ri tout son saut, elle releva la tête, essuya ses yeux qui pleuraient et lui tendit les deux mains. « Quel bon garçon vous faites !» dit-elle. « Pas plus mauvais qu'un autre. » Elle continuait d'être secouée de petits accès de rire en lui tenant toujours les mains. « Pas sérieuse, la Françoise » fit-elle. Elle prononçait « Françoise ».« Vous vous moquez de moi » dit-il avec bonne humeur. Elle le regarda d'un air attendri, lui secoua vigoureusement les mains et dit « Ami ?»« Ami » fit-il, en répondant à sa poignée de main. Il pensera à Corinette quand elle ne sera plus là. Il n'en voudra pas à la Françoise de n'être pas sérieuse? Et elle, elle n'en voudra pas au barbare Teuton d'être si bête? C'est pour ça qu'on l'aime. Il viendra la voir à Paris? C'est promis. Et elle, elle m'écrira? C'est juré. Dites aussi, je le jure. Je le jure. Non, ce n'est pas comme cela. Il faut tendre la main. Elle imita le serment des Horaces. Elle lui fit promettre qu'il écrirait pour elle une pièce, un mélodrame, qu'on traduirait en français, et qu'elle jouerait à Paris. Elle partait le lendemain avec sa troupe. Il s'engagea à aller la retrouver le surlendemain à Francfort, où avait lieu une représentation. Ils restèrent encore quelque temps à bavarder. Elle fit cadeau à Christophe d'une photographie qui la représentait nue presque jusqu'à mi-corps. Ils se quittèrent gaiement, en s'embrassant comme frères et sœurs. Et vraiment, depuis que Corinne avait vu que Christophe l'aimait bien, mais que décidément il n'était pas amoureux, elle s'était mise à l'aimer bien, aussi, sans amour, en bonne camarade. Leur sommeil n'en fut pas troublé, ni à l'un ni à l'autre. Il ne put lui dire au revoir le lendemain. car il était pris par une répétition. Mais le jour suivant, il s'arrangea comme il l'avait promis pour aller à Francfort. C'était à 2 ou 3 heures en chemin de fer. Corinne ne croyait guère à la promesse de Christophe, mais il l'avait prise très au sérieux, et à l'heure de la représentation, il était là. Quand il vint pendant l'entracte frapper à la loge où elle s'habillait, elle poussa des exclamations de joyeuse surprise et se jeta à son cou. Elle lui était sincèrement reconnaissante d'être venue. Malheureusement pour Christophe, elle était beaucoup plus entourée dans cette ville de juifs riches et intelligents qui savaient apprécier sa beauté présente et son succès futur. À tout instant, on heurtait à la porte de la loge, et la porte s'entrebâillait pour laisser passage à de lourdes figures aux yeux vifs qui disaient des fadeurs avec un âpre accent. Corinne, naturellement, coquetait avec eux, et elle gardait ensuite le même ton affecté et provoquant pour causer avec Christophe, qui en était irrité. Il n'éprouvait d'ailleurs aucun plaisir de l'impudeur tranquille avec laquelle elle procédait devant lui à sa toilette, et le fard et le gras dont elle enduisait ses bras, sa gorge et son visage lui inspiraient un profond dégoût. Il fut sur le point de partir sans la revoir aussitôt après la représentation. Mais quand il lui dit adieu, en s'excusant de ne pouvoir assister au souper qui devait lui être offert au sortir du spectacle, elle manifesta une peine si gentiment affectueuse que ses résolutions ne tinrent pas. Elle se fit apporter un horaire de chemin de fer pour lui prouver qu'il pouvait, qu'il devait rester encore une bonne heure avec elle. Il ne demandait qu'à être convaincu, et il vint au souper. Il sut même ne pas trop montrer son ennui des niaiseries qu'on y débita, et son irritation des agaceries que Corinne prodiguait au premier singe venu. Impossible de lui en vouloir. C'était une brave fille, sans principe moral, paresseuse, sensuelle, amoureuse du plaisir, d'une coquetterie enfantine, mais en même temps si loyale, si bonne, et dont tous les défauts étaient si spontanés et si sains qu'on ne pouvait qu'en sourire et presque les aimer. Assis en face d'elle, tandis qu'elle parlait, Christophe regardait son visage animé, ses beaux yeux rayonnants, sa mâchoire un peu empâtée, au sourire italien, ce sourire où il y a de la bonté, de la finesse, une lourdeur gourmande. Il la voyait plus clairement qu'il n'avait fait jusque-là. Certains traits lui rappelaient Ada, des gestes, des regards, des roueries sensuelles un peu grossières, l'éternel féminin. Mais ce qu'il aimait en elle, c'était la nature du midi. La généreuse mère qui ne lésine point avec ses dons, qui ne s'amuse point à fabriquer des beautés de salon et des intelligences de livres, mais des êtres harmonieux, dont le corps et l'esprit sont faits pour s'épanouir au soleil. Quand il partit, elle quitta la table pour lui faire ses adieux à part des autres. Ils s'embrassèrent encore et renouvelèrent leur promesse de s'écrire et de se revoir. Il reprit le dernier train pour rentrer chez lui. À une station intermédiaire, le train qui venait en sens inverse attendait. Juste dans le wagon arrêté en face du sien, dans un compartiment de troisième, Christophe vit la jeune Française qui était avec lui à la représentation d'Hamlet. Elle vit aussi Christophe, et elle le reconnut. Ils furent saisis. Ils se saluèrent silencieusement, et restèrent immobiles, n'osant plus se regarder. Cependant, il avait vu d'un coup d'œil qu'elle avait une petite toque de voyage et une vieille valise auprès d'elle. L'idée ne lui vint pas qu'elle quittât le pays. Il pensa qu'elle partait pour quelques jours. Il ne savait s'il devait lui parler. Il hésita, il prépara dans sa tête ce qu'il voulait lui dire, et il allait baisser la glace du wagon pour lui adresser quelques mots, quand on donna le signal du départ. Il renonça à parler. Quelques secondes passèrent avant que le train ne bougeât. Ils se regardèrent en face. Seuls dans leur compartiment, le visage appuyé contre la vitre du wagon, à travers la nuit qui les entourait, ils plongeaient leurs regards dans les yeux l'un de l'autre. Une double fenêtre les séparait. S'ils avaient étendu le bras au dehors, leurs mains auraient pu se toucher. Si près, si loin. Les wagons s'ébranlèrent lourdement. Elle le regardait toujours, n'ayant plus de timidité, maintenant qu'ils se quittaient. Ils étaient si absorbés dans la contemplation l'un de l'autre qu'ils ne pensèrent même plus à se saluer une dernière fois. Elle s'éloignait lentement, il la vit disparaître, et le train qui la portait s'enfonça dans la nuit. Comme deux mondes errants, ils étaient passés un instant l'un près de l'autre, et ils s'éloignaient dans l'espace infini, pour l'éternité peut-être. Quand elle eut disparu, il sentit le vide que ce regard inconnu venait de creuser en lui. Et il ne comprit pas pourquoi, mais le vide était là. Les paupières à demi closes, somnolent, adossé à un angle du wagon, il sentait sur ses yeux le contact de ses yeux, et ses autres pensées se taisaient pour le mieux sentir. L'image de Corinne papillotait au dehors de son cœur, comme un insecte qui bat des ailes de l'autre côté des carreaux, mais il ne la laissait pas entrer. Il la retrouva au sortir du wagon, quand l'air frais de la nuit et la marche dans les rues de la ville endormie eurent secoué sa torpeur. Il souriait au souvenir de la gentille actrice, avec un mélange de plaisir et d'irritation, selon qu'il se rappelait ses manières affectueuses ou ses coquetteries vulgaires. « Diable de français » grommelait-il, riant tout bas, tandis qu'il se déshabillait sans bruit pour ne pas réveiller sa mère qui dormait à côté. Un mot qu'il avait entendu l'autre soir dans la loge lui revint à l'esprit. Il y en a d'autres aussi. Dès sa première rencontre avec la France, elle lui posait l'énigme de sa double nature. Mais comme tous les Allemands, il ne s'inquiétait point de la résoudre. Et il répétait tranquillement, en songeant à la jeune fille du wagon, « Elle n'a pas l'air française. » Comme s'il appartenait à un Allemand de dire ce qui est français et ce qui ne l'est point.